Radio Okapi. Oh, Okapi.
Nous serons en Nord Kivu pour parler des difficultés de fonctionnement du centre de santé de Nyarurangi et dans Rutshuru. Cette structure sanitaire qui dessert plus de 13 000 personnes dont des déplacés a subi des dégâts liés à la pluie. Soigner cette population vulnérable est devenu compliqué. L'inspection générale des mines appelle au renforcement des dispositifs de sécurité dans les zones minières. C'est après l'attaque d'un convoi en mission de prospection dans le secteur de Luisha, dans le Haut-Katanga, par des hommes armés. Le bilan, 2 morts, 1 blessé et 2 personnes prises en otage. Comme invité, Dr Bertrand Kabembela, il nous parle de sa thèse de doctorat qu'il vient de défendre en Espagne sur les allégations d'exploitation et abus sexuels dans les secteurs humanitaires en RDC, avec un accent sur comment concilier la protection des victimes de ces abus et le respect des droits des personnes mises en cause. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal qui part du Nord Kivu. Le centre de santé de Nyarurangi dans le territoire de Rutshuru appelle à l'aide. Cette structure sanitaire qui dessert plus de 13 000 personnes a été frappée par une forte pluie. Cette dernière a endommagé le mur de la maternité et détruit l'incinérateur de déchets. Selon ses responsables, ce centre ne bénéficie d'aucun appui des partenaires humanitaires malgré l'arrivée massive de déplacés et de retournés en provenance de l'Ouganda. Sans moyens et avec des infrastructures dégradées, soigner cette population vulnérable est devenu un défi quotidien, explique Roger Bisengimana, infirmier titulaire de ce centre de santé. On l'écoute ici dans ses propos recueillis par Rosalie Zavadi.
Une forte pluie a démoli l'incinérateur avec les 3 placenta et même le mur de la maternité a été endommagé. Ça fait environ 2 mois, on ne parvient pas vraiment à bien gérer les déchets malgré qu'il y a démolition. Nous utilisons toujours cet incinérateur. Les besoins sont énormes, hein? Aucun partenaire que nous avons. Donc, vous comprenez que les besoins vraiment sont tellement nombreux. Donc, pour ce qui est de la prise en charge des malades, là, ça cause aussi problème. C'est une population qu'on peut qualifier une population vulnérable. Là où il y a beaucoup de déplacés, ça cause problème pour le paiement des soins. Nous disons vraiment aux bienfaiteurs de pouvoir venir nous aider car nous sommes vraiment dans un besoin pour administrer les soins appropriés et aussi pour la gestion des déchets.
En espérant une assistance des acteurs humanitaires intervenant dans les secteurs de la santé, cette structure continue de fonctionner avec les moyens de bord sur l'axe routier Nyamilima-Ishasha. L'inspection générale des mines appelle au renforcement des dispositifs de sécurité dans les zones minières. C'est après un incident survenu le 2 mai dernier dans le secteur de Luisha, sur l'axe reliant le site de Pompé à la route de Likasi, territoire de Kambove. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Dans un communiqué parvenu ce jeudi à Radio Okapi, l'IGM dit avoir appris avec une profonde consternation l'attaque d'un convoi en mission de prospection par des individus armés et cagoulés. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 1 blessé grave et de 2 personnes brièvement prises en otage avant leur libération après paiement d'une rançon. DDT avec Rassam Zati.
Selon l'inspection générale des mines, le convoi attaqué était composé de 2 véhicules en mission de prospection dans le secteur de Luisha. Des individus armés et cagoulés ont intercepté les véhicules et ouvert le feu. Le bilan provisoire fait état de 2 décès. Un géologue et son chauffeur, tous 2 de nationalité congolaise. Un autre passager congolais a été grièvement blessé. L'IGM indique également qu'un expatrié et un citoyen congolais ont été pris en otage avant d'être relâchés quelques heures plus tard après paiement d'une rançon. Dans son communiqué, l'inspection générale des mines relève que cette attaque intervient dans un contexte de dégradation préoccupante de la situation sécuritaire dans plusieurs zones minières de la région, marquée notamment par une présence croissante d'individus armés et d'acteurs non étatiques. Elle souligne que cette insécurité affecte directement les activités des opérateurs miniers et constitue une menace sérieuse pour la stabilité des opérations ainsi que pour le climat des affaires dans les secteurs miniers national. Face à cette situation, l'IGM appelle au renforcement des mesures de sécurité afin d'assurer la protection des populations, des travailleurs et des investissements dans les zones minières. Des investigations sont en cours pour identifier et poursuivre les auteurs de cette attaque conformément à la loi conclut le communiqué.
Un retour au Nord Kivu. De nombreux déplacés qui fuient depuis mardi Beu Manyama, une localité située à une quarantaine de kilomètres d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, après une attaque des ADF, vivent actuellement sans abri à Oicha. Selon des sources de la société civile locale, cette attaque a coûté la vie à plus de 15 civils. La bourgmestre de la commune rurale d'Oicha alerte sur les besoins humanitaires urgents de ces déplacés. Elle appelle également la population à la vigilance face à la dégradation de la situation sécuritaire. Eugénie Kavira Mwenge exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
Compte tenu de la situation sécuritaire aux environs de la commune d'Oicha, il y a un déplacement massif de la population entraînant une forte concentration de la population au sein de la commune d'Oicha et a pour conséquence le manque d'abri et sécurité alimentaire, manque de soins médicaux. Il faut dire que les kidnappings, les portés disparus ont été signalés pendant les incursions. Sur les plans économiques, il y a hausse des prix des produits agricoles, des marchandises, pas d'accès aux activités champêtres. Et si par rapport à cette situation malheureuse, je demande à la population d'être vigilante et remonter les alertes de tout mouvement suspect le plus vite possible.
Et en Ituri, la MONUSCO renforce ses actions de protection des civils dans plusieurs zones affectées par l'insécurité, notamment dans les territoires de Djougou et d'Iromou. À la suite d'attaques menées par des groupes armés contre des positions des FARDC, la mission a intensifié ses patrouilles et déployé des bases opérationnelles mobiles afin de sécuriser les populations et stabiliser les zones touchées. Elle a également escorté des civils déplacés vers des sites sécurisés et facilité le transport d'élèves vers des centres de passation de l'examen d'État. Des précisions avec le lieutenant-colonel Charles Idjua, porte-parole militaire de la MONUSCO. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Depuis le 4 mai, la MONUSCO a déployé plusieurs bases opérationnelles mobiles à Lipa et Laoudjou dans le territoire de Djougou, ainsi qu'à Boga Village, Kayensi et Mukasila dans le territoire d'Irumu, afin de renforcer sa présence protectrice et sa capacité de réponse rapide face aux menaces sécuritaires. À la même date, suite à l'attaque du 28 avril menée par les éléments armés du CRP contre des positions des FARDC à Pimbo, la MONUSCO a renforcé son dispositif sécuritaire par des patrouilles déployées depuis les bases de Fataki et Jina dans le territoire de Djougou. Ces patrouilles ont été menées à Pimbo et Bassa afin de dissuader les groupes armés et rassurer les populations civiles. Le 2 mai 2026, les casques bleus népalais de la MONUSCO ont assuré le transport sécurisé de 25 élèves, dont 8 filles, ainsi que leur encadreur de Jina Verbunia, afin de leur permettre de participer aux examens d'État. Ces actions illustrent l'engagement continu de la MONUSCO en faveur de la protection des civils.
Pour ceux qui voient entre-temps le retour des réfugiés congolais en provenance du Burundi et se poursuit. Un troisième convoi composé de 1001 personnes a été accueilli hier jeudi au site de transit de Kavimvira dans la ville d'Uvira. Ceci porte déjà environ 2470 le nombre de retournés depuis le début de l'opération lancée en avril dernier. Selon le HCR, les retournés originaires d'Uvira regagnent immédiatement leur résidence aussitôt arrivés. Ceux qui doivent regagner les localités secondaires patientent momentanément dans le site de Kavimvira. Le HCR remet des paquets de retour à ceux qui regagnent leur milieu respectif. Notez que c'est chaque jeudi qu'il est prévu un retour volontaire des réfugiés congolais en provenance du Burundi jusqu'à atteindre un nombre total de 10 000 personnes. Plusieurs enfants de la ville de Kananga au Kasai central passent leur journée à laver des motos à la rivière Nganza, une activité qui leur permet de gagner un peu d'argent. Cependant, beaucoup d'entre eux ne fréquentent pas l'école, même ceux qui y vont éprouvent des difficultés à réviser leurs leçons faute de temps, indique-t-il. Une situation que déplore une ONG qui milite pour la protection des droits des enfants. Nous faisons le point avec André Katende Ngalamulume.
À la rivière Nganza, des dizaines de motos sont stationnées. Parmi les laveurs de motos, on retrouve plusieurs enfants âgés de 11 à 17 ans. Ces derniers expliquent qu'ils exercent cette activité pour subvenir à leurs besoins. Certains affirment avoir abandonné l'école faute des moyens financiers. D'autres qui poursuivent encore leurs études reconnaissent qu'ils n'ont plus que plus de temps pour réviser leurs leçons après les cours.
J'ai abandonné l'école faute de moyens financiers. Je lave ces motos pour subvenir à mes besoins. Je lave les motos pour gagner un peu d'argent. Je vais d'abord à l'école, après les cours, je viens travailler ici.
Préoccupés par cette situation, les coordonnateurs de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL, estiment que cette situation compromet l'avenir de ces enfants. Jean-Malis Lungala plaide auprès du gouvernement provincial pour que des mesures soient prises afin que ces enfants retournent sur le banc de l'école.
Nous allons continuer toujours à faire les plaidoyers auprès des autorités compétentes pour que ces enfants soient pris en charge et réintègrent l'école.
Jean-Malis Lungala appelle également le parent à plus de responsabilités. Kananga, André Katendengala Moulmé, Radio Okapi.
Le chef de division de la protection de l'enfant au ministère du Genre, Famille et Enfants ici à Kinshasa, Gilbert Lusamba, relève des avancées significatives dans la mise en œuvre des mécanismes de la Convention relative aux droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Il a livré cette information hier jeudi à Kinshasa. C'était en marge d'un atelier de formation des membres du réseau des journalistes amis de l'enfant organisé avec l'appui de l'UNICEF. Pour étayer son argumentaire, ce haut fonctionnaire de l'État a notamment évoqué l'harmonisation de l'arsenal juridique à travers la révision de plusieurs textes légaux ainsi que la mise en place des structures de défense des droits de l'enfant dans les conseils provinciaux de l'enfant désormais opérationnels dans plusieurs provinces du pays. Gilbert Lusamba est au micro de Blaise Ndongala.
Il y a des avancées réelles que le gouvernement de la République a déjà réalisées pour avoir ratifié les instruments juridiques qui protègent l'enfant du niveau international, comme la Convention relative aux droits de l'enfant. Le pays s'est mis à mettre en œuvre les engagements pris au regard de la ratification de ces instruments, ce qui fait que l'arsenal juridique interne a été harmonisé au regard des engagements que nous avons pris. On a mis sur pied les conseils provinciaux de l'enfant. Et tout ça, ce sont des avancées parce que le pays a respecté les orientations du mouvement mondial. Et aussitôt après, le pays a harmonisé les instruments juridiques internes de notre pays pour mettre sur pied la loi portant protection de l'enfant qui a eu à intégrer beaucoup d'innovations dans notre pays. Il y a maintenant des parents qui comprennent que même dans les écoles, les punitions corporelles ont aussi baissé.
Le chef de division de la protection de l'enfant, ministère du Genre, reconnaît tout de même que les efforts sont encore à fournir dans des contrées reculées ou encore dans les zones minières où des enfants subissent des injustices. À Kinshasa, sur les grandes artères de la ville, de nombreux jeunes se livrent au commerce ambulant au cœur des embouteillages, malgré les risques d'accidents entre les véhicules à l'arrêt ou en mouvement. Ils proposent divers articles, bravant chaque jour des dangers pour gagner de quoi survivre. Un phénomène qui illustre aussi le manque d'emploi auquel est confrontée une partie de la jeunesse kinoise. Reportage Magloire Landou.
Sur le grand boulevard de Kinshasa, klaxons, moteurs allumés et circulation ralentit les rythmes de quotidien. Au cœur de ces embouteillages, de jeunes vendeurs ambulants s'y faufilent entre les véhicules, proposant drapeaux, livres, chargeurs ou encore tapis de voiture. Sous les soleils comme sous la pluie, ils disent n'avoir trouvé aucune autre alternative pour subvenir à leurs besoins malgré les dangers.
La vie est dure, mais si je ne vois pas, personne ne me voit. Je suis licencié et le manque de travail m'a poussé à la vente des livres. Vous n'avez jamais manqué quelque chose à mettre sous la dent. Nous courons beaucoup de risques. Il faut une grande prudence, des peurs d'être porté par un véhicule.
Nous qui vendons de chargeurs et des casques aux chauffeurs ici sur le boulevard, c'est compliqué. Nous sommes obligés de courir derrière eux et nous profitons surtout des embouteillages. Si tu ne profites pas du moment, tu ne vends rien. C'est risqué, mais nous n'avons pas le choix. Il faut penser à nos familles, elles doivent survivre. Mais avec la situation du pays, il faut se débrouiller coûte que coûte.
À chaque reprise de la circulation, ces jeunes prennent des risques courant entre le véhicule au danger constant d'un accident. Une réalité qui suscite également des inquiétudes chez certains usagers de la route.
Ces jeunes prennent beaucoup de risques. À tout moment, il peut y avoir un accident, mais ils cherchent seulement à survivre faute d'emploi.
Entre manque d'emploi, débrouillardise et insécurité routière, le commerce ambulant continue de s'imposer dans les rues de la capitale.
Actualité internationale.
La Cour constitutionnelle sud-africaine a ouvert aujourd'hui la porte à une éventuelle procédure de destitution du président du pays en invalidant un vote de l'Assemblée qui avait coupé court à l'ouverture d'une telle mesure le visant. L'Assemblée nationale, alors sous majorité absolue du parti de Cyril Ramaphosa, avait rejeté en 2022 un rapport parlementaire et en conclu que le chef de l'État avait pu commettre des actes contraires à la loi. Il était accusé d'avoir caché à la police et au fisc un vol de centaines de milliers de dollars en liquide dans une propriété.
L'invité.
Il s'agit de Dr Bertrand Kabembela. Il vient de défendre sa thèse de doctorat en droit international de droit de l'homme à Birmingham International University de Madrid en Espagne. Sa thèse a porté sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels dans les secteurs humanitaires en République démocratique du Congo. Dans cet entretien, il revient sur son travail de recherche qui s'est penché sur la capacité à concilier la protection des victimes de l'exploitation et abus sexuels au respect des droits des personnes mises en cause. Docteur Bertrand Kabembela répond aux questions de Paulin Munanga.
Docteur Bertrand Kabembela, bonjour.
Bonjour, Monsieur Paulin Munanga.
Vous venez de défendre votre thèse en droit international des droits de l'homme qui est intitulée « La gestion des allégations d'exploitation et d'abus sexuels dans les secteurs humanitaires en RDC entre le respect de la présomption d'innocence, la protection des victimes et les obligations éthiques ». Qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par exploitation et abus sexuels ?
Dans l'abus sexuel, très souvent, il y a usage de la force ou de la contrainte, ce que les juristes appellent la coercition, ou le fait de profiter d'un rapport inégal. Le rapport inégal, ici, c'est entre les humanitaires et les bénéficiaires, parce que nous avons deux groupes. Il y a un groupe qui vient donner de l'aide et l'autre groupe qui vient pour recevoir l'aide. Dans l'exploitation sexuelle, nous avons la notion d'échange. Vous voulez avoir un emploi, il faut d'abord sortir avec moi. Il a été remarqué que dans le cadre de l'aide humanitaire, certains comportements se sont affichés, c'est entre autres ce que nous venons de dire. Pour donner de l'aide, on exige des rapports sexuels ou on exige de sortir avec les bénéficiaires. Il y a certains humanitaires qui sortent avec, par exemple, les mineurs d'âge. Et toutes ces formes de violence tout à fait particulières qu'on a remarqué que dans le cas de l'aide humanitaire, c'est ce qu'on appelle l'exploitation et les abus sexuels. Et c'est sur cette thématique qu'a porté notre thèse.
Et dans les allégations de l'exploitation et abus sexuels, on applique la tolérance zéro, surtout dans les secteurs humanitaire. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
La tolérance zéro a principalement deux volets. C'est que lorsque un humanitaire commet ce que nous appelons les actes d'exploitation et d'abus sexuels, il doit y avoir des enquêtes. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, lorsque les enquêtes sont concluantes, cet humanitaire sera licencié et on va mettre son nom sur une liste noire. Il ne pourra plus travailler dans le secteur humanitaire. Et sous un autre angle, il faut savoir que la tolérance zéro ne concerne pas seulement les actes positifs, comme je parlais d'un humanitaire qui s'est mal comporté, mais ça dénote aussi les comportements négatifs. Le fait de voir, par exemple, un collègue commettre les actes d'exploitation et d'abus sexuels, sortir avec un membre de la communauté, obliger une contrepartie lorsqu'il y a l'aide humanitaire, si vous ne dénoncez pas, cette fois-là, la tolérance zéro, ça concerne celui qui n'a pas dénoncé. Donc, il y a une tolérance zéro concernant l'action, le mauvais comportement. Il y a aussi une tolérance zéro concernant la personne qui n'a pas dénoncé, qui voyait tout ça, ou vous qui êtes témoin, si vous ne dénoncez pas, votre responsabilité sera engagée. La tolérance zéro sera appliquée à cet humanitaire-là.
Docteur Bertrand Kabembela, pourquoi le choix de ces sujets-là?
Le choix est parti d'un constat. Pour ceux qui ne le savent pas, durant les trois dernières années, j'ai travaillé comme coordonnateur régional chargé de la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Et en tant que chercheur, j'ai constaté qu'il y avait nécessité de travailler au lieu seulement que les gens se plaignent. Deux fois, les humanitaires se plaignaient, on voit qu'on n'a pas de droit, il y a injustice, il y a ceci ou cela, les membres de la communauté. Et nous avons voulu travailler sur ça. Et en travaillant sur ça, nous avons constaté, comme vous avez cité le sujet de ma thèse, nous avons constaté une certaine pression entre ces trois notions. La présomption d'innocence contre les mises en cause, la personne qui est accusée, est-ce qu'elle est présumée innocente ou présumée coupable? Deuxièmement, nous avons constaté que aujourd'hui, dans le système humanitaire congolais et même le système mondial, c'est la victime qui est au centre de toutes choses. Donc, elle est primée, c'est la protection de la victime. Deuxième élément de pression. Troisième élément de pression, ce sont les obligations éthiques. Nous venons de parler de la tolérance zéro. Si vous voyez un collègue, vous devez le dénoncer. Dans les obligations éthiques, nous avons d'abord l'humanitaire qui engage sa responsabilité, mais nous avons aussi l'institution qui engage la responsabilité institutionnelle. Vous avez un staff qui s'est mal comporté, vous ne le réprimez pas, vous ne faites pas les enquêtes, vous, pour votre responsabilité sera aussi engagée. Et lorsque nous avons constaté cette pression-là entre ces trois éléments, nous nous sommes dit, voilà un domaine où nous pouvons travailler et voir comment nous pouvons apporter de nouvelles connaissances pour faire évoluer cette notion.
Docteur Bertrand Kabembela, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, Monsieur Paulin.
Et c'est la fin de ce journal préparé par Jean Gandou avec Babel Pongo-Massimango à la présentation. Jean-Claude Siala à la technique. Merci à vous qui venez de nous suivre. Bon début de week-end.